de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échanges.
Curiosités.
Divertissements.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.
Quatrième et dernier épisode de notre série Chemin faisant. Nous sommes en Chartreuse cette semaine où nous suivons le travail de Michèle Agnès Magaillès, compositrice, et Anne Dubo, ethno-anthropologue. Cette série a été réalisée sous l'égide de la DRAC et des parcs naturels régionaux du Pila et de la Chartreuse et diffusée sur Radio d'ici dans le Pila et Radio Couleur Chartreuse. Bonne écoute sur nos ondes!
Alors bonjour à tous, nous sommes actuellement en compagnie de Michèle Agnès Magaillès. Bonjour Michèle Agnès.
Bonjour Sophie.
Nous sommes plus particulièrement sur le plateau des Petites Roches, cette partie du PNR de Chartreuse qui fait face au massif de Belledonne et qui donne sur le Grésivaudan. Et ben, pourquoi nous sommes là? Parce que il y a un programme, un projet qui s'appelle Sonographie, qui a été organisé sur ce plateau, orchestré très clairement par Michèle Agnès, qui va nous expliquer pourquoi. Alors, à l'origine, ce projet, il est parti d'un appel d'offres de la DRAC Aura, qui s'appelait Chemin faisant, qui souhaitait développer dans les parcs naturels régionaux de la recherche et de la création en interaction avec les habitants. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, Michèle Agnès, pour vous positionner sur ce projet-là?
Je suis partie de ma pratique de compositrice et mon inspiration, c'était de créer des outils, des dispositifs pour permettre l'accès à une pratique musicale, à l'improvisation, à la composition musicale. Et ça m'intéressait dans cet appel, l'effet qu'on est invité à interagir avec les habitants des trois parcs naturels régionaux. Dans ces cas, c'était le Pila, Chartreuse et Monts d'Ardèche. Et de découvrir aussi, moi je suis brésilienne, donc de découvrir aussi ces trois régions qui ont de caractéristiques, des paysages bien différentes.
Alors oui, parce que on l'a pas précisé initialement, mais vous êtes parisienne aussi d'adoption.
Voilà, exactement.
Voilà. Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez compositrice de musique.
Exactement, je compose pour des ensembles, orchestres, instrumentistes solo, en fait selon les projets.
En fonction des projets, voilà. Donc quand on dit que vous avez orchestré, on est bien dans le beau mot par rapport au projet.
Oui, et aussi un mot qui est très important dans ces projets, c'est les mots partage. Donc c'était aussi une occasion de partager des méthodes, des propositions.
Avec d'autres artistes, pour le coup?
Avec d'autres artistes aussi, oui.
D'accord.
D'autres artistes ou aussi des habitants qui, eux aussi, ont apporté la richesse, leurs propres expériences, leurs propres écoutes, et surtout ont été bien disponibles pour participer des activités proposées.
Alors, pour commencer sur le volet artistique, sur le parc naturel régional de Chartreuse, vous avez été en partenariat, on peut dire ça, avec une harpiste. Est-ce qu'on peut la citer?
Oui, exactement. C'est Sidonie Maurice qui fait un travail extraordinaire dans les plateaux. Elle est prof de harpe et aussi harpiste. Elle est aussi harpiste dans l'orchestre, dans une orchestre à Grenoble. Et aussi très active dans le paysage local. Donc on les voit souvent, on la voit souvent escalader les montagnes.
Avec sa harpe.
Et des randonnées avec la harpe.
Oh là là, ouais, alors ça c'est un sacré défi. Ça.
Parce qu'en fait, elle a un projet avec une harpe en carton qu'on appelle Pop Harpe.
Oui.
C'est une harpe extrêmement légère et qu'on peut construire soi-même.
Ah, vous me rassurez, oui.
Et elle organise des stages dans les plateaux, des constructions de harpe qui est intéressante, justement parce que ce projet est très intéressant parce que ça réunit plusieurs compétences, c'est un travail en groupe aussi, un travail collectif qui permet aux participants d'avoir une harpe pas chère petit.
Et qui fonctionne.
Avant tout, un super instrument, un beau instrument.
Bon, alors on écoutera tout au long de l'émission quelques extraits musicaux. Je crois que dans ces extraits, il y aura notamment un extrait ou plusieurs extraits avec de la harpe, justement, de Sidonie.
Exactement. Et avec Sidonie, nous avons passé 2 semaines ensemble à s'interroger sur la question du paysage, de comment les paysages, justement, peuvent influencer notre écoute. Et à faire des expériences de prise des sons, d'improvisation, jusqu'à inviter dans un concert participatif que nous avons fait le 5 septembre, inviter le public aussi à participer et à jouer avec nous.
Alors, on va en parler de l'inspiration des paysages, mais en tout cas, effectivement, sur la partie interaction avec le public et les habitants, ça se fait, je crois, au travers d'ateliers, de concerts interactifs, comme vous venez de parler, d'invention de nouvelles méthodes de travail, d'intervention pédagogique dans les écoles, ce qu'on écoutera un petit peu plus loin dans l'interview, puisqu'on est allé tendre notre micro pendant un moment dans une classe où vous interveniez. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point-là?
Alors, nous avons développé plein d'activités qui ont été aussi adaptées dans les différents contextes, dans les différents parcs. Une chose qui était aussi importante dans cette démarche, c'est les rôles des enregistreurs et des micros. Parce que, surtout quand j'ai travaillé avec des jeunes ados et aussi enfants, on partait du principe qu'ils étaient actifs, et même s'ils n'étaient pas musiciens, ils étaient aussi invités à produire, à créer, à enregistrer, à aller écouter avec l'aide des enregistreurs nomades et aussi des micros. C'est aussi dans ces contextes qu'il a été proposé une activité à l'école dans laquelle vous étiez présente, dans laquelle les enfants aussi ont pu vous poser des questions, ont pu aussi mener leurs propres enquêtes, leurs propres recherches en ayant comme outil principal un enregistreur.
Thank you. où on voit quoi? Des sons qui sont localisés en haut. Vous voyez? Et quand on fait une percussion, le son il est là. Il est fait de la couleur verte. D'accord?
Vert jaune.
Vert jaune, ouais. Maintenant, un son tapé sur la bouche. Vous voyez qu'il y a bouche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de couleur?
Les décibels, certains.
Oui.
C'est une unité qu'on nous donnait entre le bruit et le bruit.
Ouais. Donc c'est l'intensité du son. Si votre petit frère ou votre petite soeur sont en train de crier trop fort, vous allez bien descendre 10 décibels au moins.
Vous parliez tout à l'heure de l'inspiration des paysages, sachant que ces paysages, quel que soit le parc, sont également marqués par des routes très connues, que ce soit la Trans-Sévenol, le chemin de Compostelle ou le chemin des Huguenots en ce qui concerne le parc naturel régional de Chartreuse. Alors en quoi ces paysages et les chemins qui les identifient pour la plupart ou qui peuvent les traverser ont pu vous inspirer?
Oui, alors chaque cas porte une histoire très particulière. Par rapport à la Trans-Sévenol, c'est une ancienne voie ferrée.
Oui.
Et elle n'a pas vraiment vu les jours, donc les trains, ils n'ont pas vraiment arrivé, parce que quand les travaux, ils ont été finis, ou presque finis, c'était déjà trop cher, et ça valait plus la peine d'avoir un train, en fait, qui pourrait faire cet itinéraire. Donc c'était aussi beaucoup cet imaginaire de qu'est-ce que ça pourrait être d'avoir ces trains. C'était un peu... notre imagination, elle s'est portée beaucoup sur aussi comment ces trains auraient pu aussi transformer ces paysages et ajouter des nouveaux sons dans ces contextes-là.
Et dans les sons en question, il me semble qu'il y avait aussi le sifflet du train, non?
Voilà, exactement. Donc, aussi, une chose intéressante dans des projets, c'est que j'ai essayé de surtout au début, voir qu'est-ce qu'on avait à disposition de nous comme lieu, comme instrument, comme instrumentiste, orchestre et groupe. Et j'étais fascinée par la présence dans l'orgue, de l'orgue, dans l'église, chacune de ces parcs, j'étais basée sur une petite ville qui avait bien sa petite place avec son petite église et son petit orgue. Et justement, au Mont d'Ardèche, il y avait un orgue très puissant, un instrument qui est un des plus anciens de France, en fait. Il était construit en 1518 et en les jouant, comme les tuyaux, ils peuvent aussi produire des sons qui se rapprochent d'une locomotive. En faisant quelques expériences, voilà qu'on retrouve ces personnages principaux et inexistants, imaginaires de cette voie ferrée, la Trans-Sévenol. Donc, beaucoup de notre expérience, elles ont porté un peu sur cet imaginaire-là qui est très fort.
Compostelle, qu'est-ce que ça a été?
Pour Compostelle, nous avons élaboré ensemble avec les parcs une proposition de marche sonore. Surtout l'été, c'est un chemin qui est énormément parcouru, donc nous avons croisé plein de pèlerins et nous avons imaginé ce pèlerinage musical. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc nous avons organisé un stage qui a duré une semaine avec un appel à participation aux musiciens locaux. Il y a aussi des musiciens de l'autre côté du chemin, en fait, depuis l'Espagne, qui sont venus
super
nous rejoindre aussi. Et nous avons fait, avec la participation aussi du public, qui nous a aussi rejoint, une marche dans laquelle se mélangeaient des instruments à cuivre, des petites percussions. Et c'était là les plus évidents, et cette relation avec les paysages, parce que un moment, la pluie a commencé, et il y avait une musicienne qui nous a rejoint, qui avait un instrument de percussion, une caisse claire. Et là, on la voit interagir avec le son de la pluie. À partir de cela, petites percussions se sont mises en route. Un instrumentiste aussi s'est mis à imiter ces sons. Donc, le son de la nature est devenu une source d'inspiration. Et d'autres moments aussi, c'était des petits ruisseaux qui ont servi de base. On appelle ça des notes pédales, d'une note au loin qui reste comme une sorte de base pour l'improvisation. Et cette musicienne qui nous accompagnait, elle s'appelle Pomme Bouvier, et c'est une compositrice, improvisatrice. Dans ce sens-là, c'était bien riche aussi. C'est-à-dire, nous avons fait plein de rencontres incroyables.
Et alors, pour finir, le chemin des Huguenots.
Le chemin des Huguenots, ouais. Ça aussi, c'était une très belle expérience. Donc, il y a eu déjà cette belle rencontre avec Sidonie Maurice, dont je vous ai parlé.
Oui.
Et après, des séances qui ont été faites avec des familles, des personnes qui sont inscrites dans les ateliers et avec lesquelles nous avons pu marcher dans des parties du chemin, en compagnie d'un enregistreur. Et là, pareil, en même temps, découvrir des paysages et aussi des mondes sonores qui se présentaient à nous pendant ces marches que nous avons faites.
De la même façon, vous avez aussi travaillé avec les cartes IGN. Vous avez fait un parallèle entre les cartes IGN et la composition d'une partition de musique.
En fait, c'est ça, parce que comme compositrice, je me suis toujours posé la question de comment l'auditeur reçoit et interprète la forme musicale. Et en regardant une partition, on a des balises, on a des points de référence. Parfois, on utilise même des métaphores comme si on était en train de parcourir un chemin. Un musicien va dire « Oh là là, je suis perdu. Je me suis perdu et on va se retrouver dans la mesure 47. »
D'accord, on va retrouver le fil.
Là, en fait, une partition est un peu comme une carte. Et on est tous en train de découvrir, comme en marcheur, la musique qu'on joue. Parce que bien sûr, la partition, comme une carte, elle nous donne des repères, elle nous donne les arrivées, le chemin, les trajets, les trajectoires qu'il faut faire pour aller d'un point à un autre. Mais ce n'est pas vraiment l'expérience en soi-même du chemin. Il faut le faire. Regarder des cartes ou regarder une partition, ça ne suffit pas. Mais en même temps, c'est des instruments qui nous orientent, d'orientation de notre expérience sensorielle. Donc, il y avait plein de parallèles qui ont été faits comme ça. Et après, dans les ateliers aussi, nous avons proposé aux enfants qui nous ont rejoints, et même aux adultes aussi, de créer des itinéraires sonores et de créer leur propre partition.
Super.
Qui ont été après rejoués et proposés à d'autres musiciens. Donc ça aussi était une démarche intéressante parce que ça a permis de créer des interactions entre des musiciens et
des néophytes,
des participants, des personnes qui n'étaient pas dans le même,
même
endroit. C'est-à-dire j'ai porté avec moi ces cartes, ces partitions d'un parc à l'autre et je les ai reproposées aussi dans des contextes différents.
Alors c'est sûr que la qualité des interactions a fortement dépendu du temps que les habitants pouvaient y consacrer. Ça a été particulièrement fort dans le Pila, d'après ce que j'ai compris. Mais en même temps, les deux autres parcs, vous y étiez en période estivale. Et dans le parc naturel de la Chartreuse, vous êtes arrivé à la rentrée finalement.
Oui, exactement. En Chartreuse, c'était curieux parce que beaucoup d'interactions se sont faites hors du cadre prévu. Juste avant de finir ce projet, si Denis Maurice me propose de marcher et de monter la dent des Crolles.
Ah, la dent de Crolles, oui.
Oui, donc
c'est un des bouts de la Chartreuse.
Voilà. J'ai pris mes enregistreurs, je n'avais pas vraiment. Je ne m'attendais pas à quelque chose de particulier, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde.
Oui.
Qui a décidé de faire la même chose.
Oui.
Et on se retrouve en haut avec l'adjoint au maire, les familles, des gens que j'avais déjà croisés avant.
Okay.
Et tout d'un coup, on s'est mis tous autour de l'enregistreur, faire des expériences et croiser aussi des animaux, dont des chèvres. Donc c'est magnifique. Et des oiseaux. Et donc, sans les vouloir, sans avoir organisé, on a fini par faire une pratique ensemble autour du son et du paysage. Donc, c'est le genre de projet dans lequel je me mets à l'entière disposition. En fait, j'essaye de créer cet espace.
C'est de l'improvisation totale. C'est de l'improvisation totale, oui. D'accord.
Exactement. Exactement. Donc, sans les prévoir, à la fin, le projet, il a fini d'une façon très belle.
Super.
Et très naturelle aussi, pour quelqu'un qui vit là-bas. Donc c'était aussi mon défi, c'était d'être assez ouverte pour pouvoir identifier ces opportunités d'interaction et de me laisser porter par ce qui était aussi proposé en échange à moi. Parce que comme il s'agit d'un projet aussi dans lequel l'interaction c'est un mot très important, c'est le mot clé du projet, moi aussi j'ai reçu aussi des propositions qui ont été faites par des habitants, par les participants, comme des propositions de compositions, comme des chansons qu'ils ont créées et qui n'étaient pas prévues dans les programmes.
Encore de l'improvisation, c'est bien.
Exactement.
C'est ouais. Alors, dernière question, Michel Agnès, par rapport à tous les paysages que vous avez croisés, qui ont chacun leur spécificité, qu'est-ce que vous retiendrez des paysages chartrousins versus plateau des Petites Roches? Parce que ce plateau a vraiment la particularité, on a dans le dos nos fameuses falaises de Chartreuse et la dent de Crolles d'ailleurs, qui prédominent. Et de l'autre côté, en face, on a cette magnifique chaîne de Beldonne et à gauche, tout au fond, on a le Mont Blanc. Qu'est-ce que vous retiendrez particulièrement des paysages de Chartreuse?
En faisant un parallèle musical, je pense aussi un peu sensoriel ou qui porte sur la synesthésie, on dirait. C'est vraiment cette petite ligne qui se fait à l'horizon à partir des chaînes des montagnes qui pour moi me font tellement penser à des lignes mélodiques, des possibilités.
Très pointues, hein, les lignes mélodiques.
Ouais, exactement. Et oui, c'est aussi la nature en fait de cet endroit. Donc pour moi, c'est une rencontre qui a été forte et qui m'a menée directement dans cette direction. C'était aussi pendant justement une visite préparatoire, hein, tout début de la résidence, la première semaine de résidence qui s'est passée avant toutes ces actions. C'était déjà ce qui m'a fait partir vers les partitions graphiques. C'était justement...
Donc le lien, c'est même plus que le lien effectivement entre la carte IGN et la partition de musique, c'est vraiment le paysage en écho à la partition de musique possible.
Exactement. En fait, la question de la carte, c'était plus générale, plus générique, parce que aussi...
on peut faire plus d'abstraction. Et j'avais les contacts avec la carte avant de visiter l'endroit. Et en arrivant en Chartreuse, je me suis dit, il faut absolument travailler sur la question de la représentation graphique parce que le paysage, il mène.
Il est fort.
Il est très, très fort. Ouais.
Très bien. Bah, écoutez, Michel Agnès, merci pour cette présentation globale du projet Sonographie versus Chemin des Huguenots en Chartreuse. Bonne continuation à vous.
Merci à vous. C'était un grand plaisir de vous rencontrer.
Et plaisir aussi, partagé.
Et aussi de vous avoir aussi dans la séance avec la radio et les enfants. Ils ont bien apprécié aussi la présence de la radio. Merci beaucoup.
Ouais, ils vont écouter après. À très bientôt, Michel Agnès.
Merci, à très bientôt, Sophie.
Bonjour Anne, vous êtes, alors je vais peut-être dire une bêtise, ethnologue, c'est pas tout à fait ça?
Oui, si, je suis, enfin, en fait en France on distingue les termes d'ethnologie et d'anthropologie. Je serais britannique, on me dirait que je suis anthropologue, et puis ici en France on peut dire que je suis ethnologue parce que c'est un travail de terrain.
Et du coup c'est sous cette étiquette-là, on va dire, que vous êtes intervenue dans le projet Sonographie dans le Pilat et en Chartreuse.
Et aussi dans les Monts d'Ardèche.
Vous êtes intervenue en tant qu'ethnologue pour faire quoi finalement sur ce projet Sonographie?
Ben, au départ j'ai écrit le projet, c'est-à-dire que c'est une collaboration. Avant de travailler avec Michel Agnès qui est venu nous rejoindre sur le projet, j'écrivais avec Yann Scharrer qui est compositeur et artiste sonore de l'École des Arts de Zurich. Et on a fait un long travail de recherche ensemble sur 5 ans à peu près sur la question des paysages sonores et sur la question de l'écoute et la question de la relation entre le son et le mouvement. Et comme Yann est musicien, sa question à lui, c'était de dire que le son est mouvement. Et puis moi, j'ai travaillé plutôt en tant qu'anthropologue de la danse. Moi, c'était le mouvement et la notation de la danse qui m'intéressait. Donc effectivement, en musique, on est en mesure de décrire le mouvement du son avec des partitions. Et puis en danse, on a aussi des partitions, mais la partition chorégraphique, elle n'est pas aussi codifiée que la partition musicale. En tout cas, pas de manière universelle, comme on le trouve pour la musique classique, par exemple.
Et comment mettre en relation le son et le paysage, puisque finalement il y a aussi un travail sur le paysage dans les parcs dont on parlait en
Exactement.
Chartreuse et en
Alors Pilat. Ça, c'était l'origine du projet sur la notation, la partition, et je me suis dit en regardant les cartes, la cartographie, et c'est pour ça que ça s'appelle sonographie, c'était l'idée d'écrire des paysages, mais en fait les paysages sonores sont des objets en mouvement. Donc la lecture qu'on peut en faire sur une carte IGN par exemple, ça va être une lecture fixe avec on va considérer que la géographie et du parc va être un objet empirique, c'est-à-dire immuable. Là où pour moi, en tant qu'anthropologue, les cartes sont finalement des objets en évolution permanente. Sachant que, par exemple, en habitant au même endroit, à Saint-Julien-Molinvette, du printemps à l'été, en passant par l'hiver, on n'a pas du tout ni les mêmes paysages, ni les mêmes territoires, ni la même perception sonore de l'environnement. Par exemple, quand il neige, si vous avez 20 cm de neige, la perception sonore est complètement différente de quand on est sur un territoire de printemps ou de plein été.
Et du coup, donc, vous avez parcouru les sentiers des parcs pour justement capter ce changement de paysage sonore. Vous avez interrogé des gens, vous avez...
Voilà.
Racontez-nous ça un peu concrètement.
Alors au départ, on avait une mission engagée par par les parcs, les trois parcs. C'était un dispositif mis en place par la DRAC. L'enjeu, c'était de mettre un peu en action les territoires des parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes. Et la question, c'était de savoir si, quand on invite un chercheur et un artiste à travailler sur un territoire comme celui d'un parc naturel régional, quelles vont être les retombées, quels sont les enjeux, et est-ce que ces nouveaux acteurs qui ne vivent pas dans le parc sont en mesure de saisir des choses que les personnes du parc ne voient pas forcément. Avec un regard nouveau, en général, on peut mettre en perspective des choses qu'on fait pas dans le quotidien. Alors, ma venue, elle était un peu commanditée comme ça par cette bourse de la DRAC qui s'appelait Chemin Faisant. Et l'idée, c'était de comparer trois GR, donc sentiers de grande randonnée, identifiés sur les parcs. Et puis, essayer de voir si, pour la politique de développement culturel des parcs, on avait quelque chose à faire ou à proposer. Et donc, au Chartreux, c'était le sentier des Huguenots. Ici, dans le Pilat, c'était le GR65, qui est le chemin de Compostelle. Bon, j'ai dit aussi les Monts d'Ardèche, et dans les Monts d'Ardèche, c'était pas un GR, c'était la ligne de la Transilien. Donc, c'était ces trois territoires-là à mettre en comparaison.
Une ligne de train qui finalement n'a pas vu le jour, je crois.
Qui n'a pas vu le jour, voilà, exactement.
Mais qui, du coup, devient un chemin de randonnée.
Exactement. En tout cas, qui est en voie de transformation. Puisque c'est un des enjeux patrimoniaux des Monts d'Ardèche, de pouvoir transformer cette ligne en autre chose qu'une friche industrielle. Et ce serait éventuellement un sentier. Et l'idée, ce serait de le faire inscrire comme sentier de promenade ou alors d'en faire une voie verte pour les visiter.
D'accord.
Donc tout ça, c'est des questions d'aménagement du territoire. Puisque les sentiers, en fait, il faut les aménager. Donc là, par exemple, j'ai rencontré... Alors, je suis non seulement allée me promener sur ce chemin qui part de Chavanay et puis qui va traverser jusqu'au Tracol, on passe à travers les villages. L'enjeu, il a été pour moi non seulement d'aller expérimenter le territoire et de comprendre, moi, ce que je pouvais collecter comme objet sonore, mais surtout, ça a été à travers l'enquête ou l'entretien ethnographique, ça a été d'essayer de comprendre ce que les gens percevaient de leur territoire de manière sonore. Qu'est-ce que les gens entendent quand ils sont habitants aux alentours du GR, mais aussi qu'est-ce que les marcheurs entendent.
Et il y a une différence justement entre ce qu'entendent les marcheurs et ce qu'entendent les gens qui habitent sur le territoire.
Eh oui, parce que les marcheurs, quand ils partent marcher, d'abord ils ne font plus rien d'autre que marcher. Que
15 sont plus attentifs.
Par jour avec un sac de 10 kilos, ça demande un certain entraînement. Et comme ici, en tout cas, dans le Pilat, quand on traverse, on est quand même au tout début du chemin de Saint-Jacques. Donc on a des corps qui ne sont pas très entraînés. Je dirais qu'il faut 3 semaines à peu près pour que le corps se mette en mouvement et que la circulation sanguine se fasse de manière à permettre aux marcheurs de se promener sans trop souffrir. Et donc, les marcheurs, ils commencent à écouter, en fait. Quand ils habitent chez eux, étrangement, quand je suis allée interviewer les personnes qui vivent dans le village, quand je leur demande qu'est-ce que vous entendez depuis chez vous, eh bien, ils sont nombreux à me dire qu'ils n'entendent rien. Et même qu'ils se trouvent chanceux, c'est de ne rien entendre.
Et oui, parce qu'on pense tout de suite au bruit plus urbain, des véhicules, tout ça. Et à partir du moment où on n'entend plus ces bruits, on a l'impression de plus rien entendre.
Oui, mais en fait, c'est un peu faux. Enfin, si vous êtes quelqu'un de la campagne, quand vous êtes dehors, vous entendez des tas de choses. On entend le chant des oiseaux, on entend les vaches, on entend les grillons, on entend...
Le vent.
Enfin, on entend le vent, on entend les feuilles, on entend la rivière, on entend les voitures. Enfin, on entend des tas de choses. C'est très difficile de leur faire parler de leur expérience d'écoute. En tout cas, dans le Pilat, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, il y a comme une mémoire en creux, je dirais, de la vie industrielle. C'est-à-dire que je crois que les personnes qui vivent dans le Pilat n'entendent rien parce qu'ils entendent en fait le silence des idées. Et qu'ici, il y a une histoire territoriale assez singulière, c'est l'installation de toutes les usines de filature qui faisaient un son d'ailleurs que tout le monde connaît sans même l'avoir entendu. Tout le monde me parle du bistanclac des usines, donc c'est un son qui a un nom. On a une mémoire pour ce son, il a été transmis et hérité, mais on ne l'a pas forcément entendu de mémoire d'homme. C'est-à-dire que des nouveaux arrivants, à Saint-Julien ou à Bourg-Argental, peuvent vous parler du son des machines et des usines sans même les avoir entendus fonctionner eux-mêmes.
C'est une mémoire collective qui se transmet, mais qui n'est plus réelle. C'est rigolo, ça.
Oui. Mais alors, ce qui est intéressant, Et à rebours, c'est que dans la Chartreuse, les personnes que j'interviewe, elles entendent très bien. Et j'ai même trouvé que plus on est... Enfin, en fait, que la mémoire du son, elle est héritée et transmise de génération en génération. Et si vous êtes petit-fils ou petite-fille d'agriculteur, vous entendez beaucoup plus de choses du territoire et des paysages que si vous venez d'arriver. Quand vous êtes primo-arrivant, en général, vous n'entendez pas grand-chose. Mais quand vous êtes là depuis plusieurs générations, vous entendez, en fait, des objets sonores qui appartiennent au territoire et qui ont une logique et qui sont entremêlés.
Et ce travail que vous avez fait autour du son, du paysage, est-ce que finalement, justement, ça a donné quelque chose, des objectifs pour la politique de développement culturel dont vous parliez tout à l'heure pour les parcs naturels régionaux ?
Alors moi, mon travail, il n'était pas dans l'idée de produire un objet, ni même un objectif. Il était surtout de générer un processus de réflexion. Ça, c'est un peu le travail des chercheurs fondamentaux. On n'est pas là pour fabriquer des choses directes et avoir des applications directes. Hein. On est plutôt là pour poser des questions et essayer d'aider les décisions des pouvoirs publics à mettre des choses en place pour faire des choses qui iraient dans un certain sens. Et l'enjeu, il est quand même de préserver l'environnement et d'en faire des zones, en tout cas de préserver des zones Natura 2000 et d'essayer de retourner à de la biodiversité qui permette une réinstallation d'espèces variées. Effectivement, l'écoute, c'est quand même un bon outil pour essayer de comprendre là où on en est. Parce que c'est évident qu'on n'a pas la même perception sonore dans une forêt plantée que dans une forêt qui est plus ancienne ou qui est plus complexe. On a plus d'espèces qui s'installent et on a aussi une polyphonie qui est beaucoup plus intéressante. Et je pense que le son, en fait, c'est une chose à envisager de l'ordre de la patrimonialisation. Il y a des empreintes sonores. Si, par exemple, l'espace urbain s'agrandit trop, on perd une qualité de silence ou une tonalité sonore. Et je pense qu'il est intéressant aujourd'hui pour les politiques publiques de s'interroger sur ces questions. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un lieu ? Alors, il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a l'architecture, mais il y a aussi le son.
Et vous avez remarqué donc entre les deux parcs, entre celui de la Chartreuse et celui du Pilat, les gens n'avaient pas du tout le même rapport au son. Il y a d'autres différences qui vous ont sauté aux oreilles, on va dire.
Déjà, la structure géomorphologique des deux parcs est très très différente. En tout cas, moi j'étais sur le plateau des Petites Roches, donc j'étais vraiment contre la falaise. Donc le son il résonne contre une grande falaise. Et il y a du son de la ville qui peut remonter à certains moments ou pas du tout en fonction de l'orientation du vent. Et ce qui est très étonnant en Chartreuse, c'est que le paysage sonore ne correspond pas du tout au paysage visuel. En fait, si on prend une photo d'un lieu ou si on voit quelque chose, on va absolument pas entendre ce qu'on pourrait entendre du fait de cette grande irrégularité paysagère, je veux dire. Et alors que quand on se trouve dans le Pilat, comme le territoire est beaucoup plus, c'est beaucoup plus vallonné, donc déjà on a des ambiances sonores d'une vallée à une autre qui changent complètement. Dès qu'on passe d'une vallée à l'autre, on a des ambiances et des écosystèmes sonores qui sont différents, que j'ai pas trouvé en Chartreuse puisque ça n'est pas le cas.
Pour terminer, je voulais vous poser la question de comment s'organiser votre travail avec celui de comment s'articuler plutôt votre travail avec celui de Michèle Agnès, qui elle était plus sur une partie musicale, approche musicale du paysage.
Alors, on a eu un peu de mal hein, à articuler notre travail.
Ce qui était prévu et puis ce qui a pu être réalisé ou pas.
Ce qui était prévu et ce qui était réellement fait. Déjà, on a eu des conditions. On va dire un peu exceptionnel.
Un peu compliqué avec la situation sanitaire. Oui.
Le confinement, des reports de résidence, notre travail a été haché, découpé en plein de petits morceaux, prévus, annulés, reportés, etc. Et puis de fil en aiguille, le travail prévu en une année s'est reporté sur deux années. Donc Michèle, elle a été embauchée en conservatoire. Et après, on n'avait plus du tout les mêmes emplois du temps. Donc on ne s'est pas du tout retrouvés en même temps sur les mêmes terrains. C'est pour articuler un travail commun, là, ça devient plus compliqué. Et après, d'un point de vue peut-être de la recherche ou la pratique de la recherche, comment est-ce qu'on fait de la recherche et comment est-ce qu'on met en valeur la parole des autres ou, je crois qu'en étant musicien, je crois qu'on, ou en étant compositeur peut-être, ou en étant artiste, en tout cas avec ce versant-là de la recherche, peut-être qu'on peut prendre, tout est bon à prendre, on peut tout prendre et tout utiliser comme de valorisation de matériaux, ou en tout cas dans l'idée de créer un objet qui soit, soit beau, ou en tout cas les règles sont esthétiques. Là où, quand on fait des sciences humaines ou des sciences sociales, on est plus précautionneux, je dirais. Et la question d'éthique et de la question de droit d'auteur ou la question de la propriété intellectuelle des personnes, elle est beaucoup plus forte. Donc, on envisage ou on essaie de valoriser ce que disent les personnes, mais on essaie de ne pas s'approprier, en fait, ce qu'elles font. Et c'est toujours un peu délicat. Ça veut dire qu'il y a effectivement une sorte d'interdit. Il y a des choses qu'on... Il faut qu'on a le droit de la citation, mais on n'a pas nécessairement le droit de prendre. Et surtout sur un territoire qui n'est pas le nôtre. Donc, je pense que c'est difficile de faire fonctionner pour ça, à mon avis, sur le même terrain, un artiste et quelqu'un. En tout cas, à ce moment-là, j'étais anthropologue et donc j'étais du côté des sciences humaines et des sciences sociales. Et il y a une espèce de rigueur, quoi, oui, sur le travail qui est peut-être difficile pour permettre d'articuler de propos.
Merci beaucoup, Anne, d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne fin de journée, au revoir.
Et bien voilà, c'était le dernier épisode de notre série Chemin faisant, réalisé sous l'égide de la DRAC et des parcs naturels régionaux du Pilat et de la Chartreuse. Ces émissions ont été coproduites par Radio d'ici et Radio Couleur Chartreuse. Vous pouvez retrouver tous les épisodes en podcast sur les sites de nos radios respectives. Merci de votre écoute.
Bouillon de Chartreuse.
Votre magazine d'infos locales.
Échange.
Curiosité.
Divertissement.
Infos de proximité.
Actions culturelles et éducatives.
Environnement.
Bouillon de Chartreuse.
C'est en Chartreuse.
Pour la Chartreuse.
Rien qu'en Chartreuse.